Bonjour Issa, excuse-moi, je n'avais pas de retour, j'ai pas. Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, on va évoquer une jeune autrice, elle s'appelle Anne Masse, et avec Apocalypse Sauvage, elle rompt littéralement sur ses récits post-apocalyptiques, principalement centrés sur la survie où les groupes humains restent nombreux et antagonistes. Anne Masse centre son histoire sur Vlad et Puick, deux adultes qui vont tenter d'unir leur solitude dans des paysages de désolation. Une écriture incisive que nous découvrirons avec Anne Masse à partir de 14h45. Nous parlerons également d'Hemingway, de Salch et de son français Langue étrangère. À tout de suite. Écriture dessinée. Bonjour à toutes et à tous. Issa est en technique. Là, ça y est, j'entends bien, tout va bien. Alors, une brève pour démarrer cette émission avec, bien sûr, le quatrième festival du dessin d'Arles qui a lieu encore jusqu'au 17 mai 2026. Alors, c'est vraiment, pour ma part, un festival qui aura l'ampleur de celui de la photo. Il aura lieu chaque printemps. Il y a une dizaine de lieux concernés, des rencontres avec un très grand nombre d'œuvres dessinées. Et cette écriture, ce langage qu'est le dessin, avec des formes multiples qui tracent ses chemins personnels en toute nuance et en totale subjectivité. Alors ça, c'est vraiment le projet du festival. On peut lire ces quelques lignes dans le mot d'introduction de Frédéric Pajac sur à la fois le guide et le catalogue de cette manifestation. Et c'est tout à fait important que ce festival du dessin ait lieu à Arles. Parce que Arles, c'est bien sûr un des lieux où vécut Van Gogh, et on a boudé un peu la relation de Van Gogh et du dessin, considérant que ce n'était pas un dessinateur. Et Frédéric Pajac, qui est le directeur artistique du festival, dans son œuvre personnelle, le tome 5 du Manifeste incertain est consacré à Van Gogh, et il montre, à partir de recherches qu'il a effectuées, que Van Gogh, enfant, a été obligé de repasser sur les dessins de sa mère. C'est-à-dire que sa mère l'a complètement privé de cet espace de liberté qu'est le dessin d'enfant. Et donc, il y a à redécouvrir ainsi la relation de Van Gogh au dessin. Et en fait, le festival nous propose de faire cette redécouverte et d'approfondir pleinement toute cette importance du dessin, à la fois dans l'œuvre d'auteurs de bande dessinée, mais aussi de peintres, d'écrivains. Il y a toute une partie consacrée à l'Italie. C'est vraiment à voir. Alors, pour une fois que je ne vous parle pas d'une expo qui est à Paris ou à Bruxelles, profitez-en, c'est pas très loin, c'est à côté. On s'y retrouvera certainement. Alors, j'ai profité de l'émission aussi pour faire un focus sur Hemingway. Alors, c'est pas sans lien avec l'Apocalypse sauvage de Anne Masse. Il y a vraiment des choses qui, des liens souterrains. Mais je voudrais évoquer Hemingway parce que deux livres, deux bandes dessinées sont sorties sur Hemingway. Alors, la première, c'est Hemingway, la jeune fille et la mère. Le second, c'est une adaptation littéraire de Pour qui sonne le glas. Alors, commençons par Hemingway, la jeune fille et la mère. Alors, le lien est direct avec cette œuvre majeure d'Hemingway, qui est Le vieil homme et la mère. Et dans ce récit qui est écrit par Philippe Charlot, mis en image par Laurent Zimny, il y a au départ une idée, une image, et les auteurs vont tirer le fil. Alors le récit. Quai Ouest, 1933, avant la fin de la Prohibition. Coincé dans un mariage qui bat de l'aile, celui qu'on surnomme Papa enchaîne les beuveries, s'entraîne vaguement à la boxe, pêche au gros à bord de son bateau et se donne en spectacle. Pas de guerre, pas de sang, pas de larmes, l'écrivain est en panne d'inspiration. Papa, c'est Ernest Hemingway, déjà célèbre, assez riche pour vivre très confortablement, mais paumé. C'est alors que surgit de nulle part Jeannette, gamine intrépide, fauchée et sacrément roublarde, qui l'entraîne dans d'improbables arnaques. Son énergie et sa débrouillardise bousculent le géant et le sortent de sa torpeur et de son ennui, lui qui n'était plus qu'un semblant d'Hemingway. Alors, la vision dont je parlais, que j'évoquais tout à l'heure, c'est donc celle de Laurent Zimny qui a vu Hemingway sur son voyage dans les années 30 et qui croise en mer une jeune fille en difficulté. Il n'en a pas fallu plus pour Philippe Charlot pour écrire ce récit qui est complètement inspiré de la vie d'Hemingway qui a réellement vécu à Key West. Il y a un cahier explicatif, que plus des indications qui se trouvent en fin de livre et qui va donner ces quelques repères pour bien montrer l'ancrage et l'importance du contexte de ce récit dans, qui est donc lié à la vie d'Hemingway. Alors cette idée, et rien n'oblige à ce faire la biographie d'Hemingway, ce n'était pas le projet. L'idée, c'est vraiment de faire vivre à travers cette situation de la rencontre entre Jeannette et Hemingway, de faire vivre cet écrivain mondialement connu qui a été prix Nobel, qui a une œuvre d'ampleur, qui a notamment écrit et réalisé avec Yuri Stevens un film sur la guerre d'Espagne. On en reparlera pour cette adaptation de Pour qui sonne le glas. Donc c'est un homme qui a donc une réelle stature. Alors, il y a cette figure de Jeannette qui est importante parce qu'elle permet au récit d'avoir tout de suite une ampleur, parce que, comme je l'ai dit dans le résumé, Jeannette est pleine d'énergie et a un côté très, très roublard. Et elle a très bien compris et quelles étaient les faiblesses d'Hemingway et comment en tirer parti. Alors le récit a ainsi une réelle dynamique. Et on va prendre énormément de plaisir à voir donc à la fois ce géant et ce géant de la littérature et évoluer et être un peu ballotté dans ce récit imaginé par Philippe Charlot. Alors, il y a dans le récit un choix de la pour les auteurs, les dessinateurs, d'un dessin à l'énergie, qui est avec une importante vivacité et qui rend bien compte de à la fois cette vie insulaire, puisque Key West, c'est une île, et qu'il y a donc les lieux qui vont prendre vite une importance, une façon d'utiliser les plans larges, parfois très larges, et qui fait que l'action, elle est toujours bien ancrée dans le contexte, à la fois celui des lieux, celui des moments de la journée, celui aussi un peu de l'histoire et des amitiés plus ou moins anciennes de Hemingway. Donc on a vraiment ce récit qui prend avec ce dessin tout à fait une vivacité également, puisque ce dessin est vraiment comme une écriture et à l'énergie. J'ai une réserve sur la mise en couleur. Alors là, on est dans des paysages qui peuvent offrir une palette à la fois de mise en couleur, mais même un peu de dessin. Et d'ailleurs, les illustrations du cahier supplémentaire en fin de livre montrent les possibilités de Laurent Zimnis, aussi bien sur le plan du dessin. Il y a quelques dessins au trait, avec un trait de plume ou de stylo-bille appuyé. Il y a une mise en couleur avec des aquarelles très belle, et puis des quelques couchers de soleil. Et dans la mise en couleur du livre, on a une sorte de régularité qui est imposée par une palette restreinte, avec un bleu quasi omniprésent qui est associé à quelques couleurs chaudes. Mais alors, on a l'impression qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir quelques autres tons, quelques autres possibilités d'une autre mise en couleur, et d'autant plus que très vite, on a des dégradés qui sont là partout et qui un peu polluent cette mise en image qui aurait pu garder toute sa force. C'est une réserve un peu importante parce que il y a vraiment dans l'écriture de Philippe Charlot un décalage par rapport au récit que l'on peut trouver habituellement en bande dessinée. C'est un scénariste qui a œuvré chez d'autres éditeurs et il a un sens du récit et de l'écriture intéressant qui il est vraiment important de suivre. Et là, le duo n'a pas pleinement fonctionné. C'est un petit peu dommage. En tout cas, cet Hemingway, la jeune fille et la mère, reste un moment important parce qu'on a une évocation d'Hemingway qui là fonctionne très bien. Hemingway, la jeune fille et la mère de Philippe Charlot pour la partie scénario et Laurent Zimny pour la partie dessin. Les 112 pages de ce livre sont au prix de 21,50 €. Je vais essayer de vous dire et le livre a été imprimé en France. Alors, une autre évocation d'Hemingway avec Pour qui sonne le glas. Alors, c'est une adaptation littéraire qui a été réalisée par Jean-David Morvan et mise en image par Pierre Daouance. Alors, c'est un défi, littéralement, d'adapter un roman tel que Pour qui sonne le glas. C'est un roman d'ampleur. Et en plus, Hemingway a une écriture où le dialogue a beaucoup d'importance. Et ça se vérifie tout au long de son roman. Alors, ça peut être important et intéressant pour un auteur de bande dessinée d'avoir un recours au dialogue, puisque ça place les personnages automatiquement sur le devant de la scène. C'est un piège également, parce que lorsqu'on fait un dialogue avec différents personnages, admettons deux ou trois pour simplifier, la difficulté, c'est que comment on les dessine? Comment on les met dans la case? Alors, ils vont se regarder et puis on va les avoir en train de discuter avec la lecture des cases. Ça peut être très vite ennuyeux, ça peut tourner à vide. Et donc, il est important de trouver des stratégies pour que ces dialogues apparaissent beaucoup plus naturels. Alors, il y en a quelques-unes qui ont été importantes, comme celle de Rupert et Mulot, où, lorsque deux personnages dialoguent, on peut avoir une pleine page avec la totalité des dialogues et les deux protagonistes dessinés une seule fois dans l'image. Il y a celle d'Hergé, par exemple, qui avait rajouté une séquence complémentaire qui pouvait avoir une réalité graphique, comme par exemple dans l'affaire Tournesol, où Tintin discute avec un scientifique, et pendant ce temps-là, Haddock sirote, et on voit le vin descendre dangereusement dans la bouteille. Alors, Pierre d'Avance a relevé le défi, il a fait des propositions pour adapter cette écriture d'Hemingway et la mettre en image, et il ne les a pas faites seulement pour cette partie des dialogues. Alors, lorsqu'on feuillette, on est immédiatement dans d'autres espaces picturaux. Pierre d'Avance est un dessinateur illustrateur qui a déjà un solide bagage. Il réalise là sa première bande dessinée et tout de suite, on découvre son utilisation du pastel, de ces tons chauds qui ont une réelle présence tout au long de ce livre. Il y a cette utilisation de la couleur directe, pas de trait de contour. Tout est fait avec les contrastes des différentes couleurs choisies. Et ainsi, on va voir se déployer ce récit de Pour qui sonne le glas. Quelques mots sur cette histoire. Le soleil tape fort, la pente s'élève, deux vautours tournent dans le ciel en silence. Un jeune homme, souple et beau comme on l'est à 30 ans, suit sans forcer un vieux montagnard. Il sourit comme on sourit à 30 ans. Le jeune homme, c'est Robert Jordan, un jeune Américain enrôlé volontaire dans les rangs républicains pour dynamiter un pont et favoriser une attaque de grande ampleur. Ses chances de réussir sont minces, il le sait et n'en a cure. À son arrivée au repère des Maquisards, une grotte sommairement aménagée à flanc de montagne, la terrible Pilar, la femme de leur chef Pablo, l'accueille. Elle a vécu mille vies, vu mille horreurs, ses mots coulent en cascade dans le soir qui tombe, mais Robert n'a Dieu que pour la farouche Maria, pour laquelle il va immédiatement éprouver une passion dévorante. On trouve tout ça dans cette adaptation littéraire. Il y a vraiment une utilisation de cette part du dialogue du roman qui est vraiment présente. Les personnages qui, avec ces dialogues, sont en avant et ont vraiment une présence profonde, intense, tout au long de l'histoire, même lorsqu'on est sur des plans larges, la mise en couleur fait qu'ils ressortent. Et puis il y a ces trouvailles pour les dialogues. On a par exemple une page où Robert Jordan et Pilar vont discuter et ils sont juxtaposés. Il y a une multitude de Pilar, une multitude de Robert Jordan, ça dialogue et ça fonctionne. Il y a beaucoup de trouvailles ainsi pour adapter Hemingway, des doubles pages où on a cette faculté à supprimer le cadre de la case, à faire qu'elle s'interpénètre pour que dès qu'il y a un échange, on puisse avoir cette proximité qui reste, qui s'affiche, qui s'affirme, et que le dialogue ainsi prenne toute son ampleur et qu'on ne soit pas du tout gêné par cette distinction des différentes cases et qu'au contraire on soit dans cette unité de temps que donnent les doubles pages et ces grandes pages consacrées au dialogue. C'est un livre qui est une très belle surprise. On découvre le talent d'un auteur illustrateur qui est maintenant auteur de bande dessinée et c'est une adaptation littéraire qui nous emmène vers autre chose, vers une autre œuvre, une façon donc d'évoquer à la fois Hemingway, la guerre d'Espagne, la guerre, l'amour, et on n'en demande pas plus. Pour qui sonne le glas, d'après Ernest Hemingway, adapté par Jean-David Morvan et mis en image par Pierre d'Avance. Les 192 pages de ce récit sont au prix de 29 € et le livre a été imprimé en France. Musique. Thank you. Dans un monde ravagé par une lointaine apocalypse, de jeunes gens que tout oppose se trouvent réunis pour échapper à leur solitude. Vlad vient de perdre sa tribu dans un terrible accident. Peinant à faire son deuil, mais décidée à trouver un nouveau groupe, elle se met en route. Puik, nomade et solitaire, en quête de savoir, compte sur sa connaissance de la région pour l'aider à trouver de nouveaux livres. Dépassant leurs différences, ils vont tenter de s'approprier ce monde dévasté. Avec son récit, Annemasse rompt avec les poncifs des histoires post-apocalyptiques, souvent cruelles. Ce qui se joue dans Apocalypse sauvage, c'est avant tout l'entraide. Comment composer avec nos différences et résister à la désolation? Comment nouer cette amitié qui peut nous rendre plus forts? Comment réapprendre ces savoirs usuels, comme le vélo ou la lecture? Annemasse inscrit dans ces grands espaces tourmentés, baignés dans la grisaille, la quête de Puik, de ce savoir fondamental qu'est la lecture. Les restes des livres de l'ancien monde découverts çà et là en attestent la violence et la perversion. Le dessin sensible, au plus près de Vlad et de Puik et de leur regard blanc, fait de ces paysages un espace libre où tout est à réinventer. Ce récit au la vie est rehaussé de jaune, tout à la fois lumière, floraison, espoir ou porteur du tragique. Nous sommes avec Annemasse pour qu'elle nous accompagne dans son apocalypse sauvage. Bonjour Annemasse.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous souhaitez que je dise auteur ou autrice pour commencer?
Je préfère auteur.
Eh bien, allons-y pour auteur. Alors, comment est né cet apocalypse sauvage?
Comment elle est née? Elle est née il y a très longtemps. Ça doit, ouais, une quinzaine d'années que je me trimballe, non pas cette histoire en particulier, mais les personnages et l'univers. Et elle est née de mon amour du post-apo, en fait, simplement. Parce que c'est un genre que j'aime beaucoup, mais que je trouve un petit peu répétitif dans ce qu'il a à proposer. Et j'ai toujours eu envie de m'attaquer à cet univers.
Alors, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui va faire sens pour vous dans ces espaces post-apocalyptiques, Annemasse? Parce que vous ne les avez pas peuplés beaucoup. L'apocalypse, elle est lointaine.
Elle est lointaine. Elle est lointaine parce que, en l'occurrence, dans cette histoire, c'est ce qui marchait. Le point de focus pour moi là-dessus, c'était qu'est-ce qui est devenu la société, plus que qu'est-ce qu'on va faire de la société, qui est souvent la question qui est posée en post-apo. Comment organiser, comment reconstruire. Moi, c'était plus comment on évolue dans ce monde où les humains ne sont plus là, en fait.
Alors, Annemasse, vous tirez le fil de cet apocalypse assez loin, parce que c'est ce que j'exprimais dans le chapeau. Il y a eu une perte des fondamentaux, des savoirs essentiels. Pourquoi être allé jusque-là?
Pour moi, c'est un peu une histoire de logique. Il y a forcément une perte des savoirs qui va se mettre en place si les populations s'amenuisent au point où s'en est dans Asphalte Sauvage, bien sûr. Et c'est quelque chose d'intéressant de se demander aussi qu'est-ce qui vaut le coup de ce qu'on a construit dans les sociétés humaines et surtout les fondamentaux, l'agriculture, l'écriture, ce genre de choses. Qu'est-ce qui vaut le coup de conserver et qu'est-ce qui peut être mis à la poubelle?
Annemasse, qu'est-ce qui fait sens dans ce post-apo, comme vous dites? Parce que, bon, je suis pas de la même génération que vous. J'ai lu les premiers récits post-apocalyptiques en bande dessinée. C'était dans les années 70-80. C'est pas la même. Elle n'a pas. Est-ce que c'est un horizon possible pour vous? Parce que ça relève du possible post-apo, le post-apocalyptique.
C'est du possible, je pense que c'est du possible, c'est juste, en fait, le point d'interrogation que j'ai sur tout ça, c'est comment ça se passe, enfin, comment ça se passera quand ça se passera. Comme vous le disiez à un moment, c'est est-ce qu'on sera sur l'homme étant loup pour l'homme, ou est-ce qu'on sera dans quelque chose de plus apaisé, avec plus d'entraide? Et personnellement, je pense que ce sera un peu tout suivant où on est et avec qui on est, bien sûr. Mais c'est forcé qu'à un moment. Et c'est pour ça que dans Asphalt, c'est pas une catastrophe. Une catastrophe unique dont on parle comme de l'événement qui a tué les civilisations, mais c'est une accumulation de petites choses, enfin de grosses choses qui font que c'est la société se délite sur un temps long. C'est aussi pour ça que la catastrophe finale est lointaine et la civilisation est lointaine dans Asphalt. C'est parce que je laisse le temps de se aux choses de se dérouler avec ce temps long, en fait.
Alors, il y a deux personnages qui sont présents dans et qui se retrouvent ensemble dans Asphalt sauvage. Comment les avez-vous définis, en sachant que vous avez gardé certaines zones, pas d'ombre, mais non dites?
Comment je les ai définis? La personnalité de Pouic a toujours été ce qu'elle est, c'est-à-dire quelqu'un d'un peu étrange et d'un peu sauvage, qui n'a pas forcément tous les codes sociaux, parce qu'il n'a pas vécu là-dedans. Vlada est un peu plus dur à... Là, je parle techniquement en tant que scénariste, elle est un petit peu plus dur à cerner, parce que je ne l'ai pas bien posé au début, parce qu'il y avait pas mal de choses techniquement difficiles avec le personnage au point de vue du scénario. Le fait de venir d'un groupe et de ne pas montrer quand elle était dans le groupe et de pouvoir bien l'aborder et bien me l'introduire pour que les lecteurs sachent que c'est important qu'elle ait perdu tout le monde et que pour elle, c'est un gros contraste entre le groupe et le non-groupe. Et cette notion de contraste, pour moi, en écriture, elle est importante et c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer beaucoup. Et surtout, à la base, je m'étais interrogée sur le fait que Pouic vient d'un groupe lui aussi, mais qu'il l'ait quitté de son plein gré, parce qu'il en avait ras le pompon d'être avec des gens. Et en fait, à force d'écrire, je me suis rendu compte que c'était une mauvaise idée, une mauvaise direction, parce que ça faisait qu'il n'y avait justement pas assez de contraste entre les deux personnages. Donc, pour moi, écrire les personnages, c'est autant une histoire de trouver des traits de caractère, des dynamiques qui me font que je trouve chouette et que j'ai envie de développer, et autant le fait de réfléchir sur son scénario et comment apporter de l'émotion au lecteur, comment apporter du contraste, comment faire en sorte que ce soit divertissant et adapter aussi les personnages à ça.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que ces espaces où on ne sait pas tout d'eux, on sait des choses importantes, comme vous l'évoquez. Vlad a fait partie d'un groupe qui a disparu ou qui sont décédés. Ils ont une très grande présence. Est-ce que vous pouvez leur faire dire tout ce que vous voulez? Est-ce qu'ils ont pris une autonomie, une indépendance? Quel est le rapport aujourd'hui avec ces personnages, Annemasse?
Moi, je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça un peu stupide, mais moi, je fais partie de ces scénaristes qui disent que les personnages, au bout d'un certain moment, ils prennent leur propre vie et ils font et les choses découlent logiquement de ce qu'ils font. Et j'ai plus vraiment de prise là-dessus parce que c'est comme ça. C'est un peu du déterminisme de personnage de bande dessinée, où comme on a posé tous les pions de comment ils sont, comment leur personnalité est, de ce qu'ils ont un peu vécu avant, etc., il n'y a plus qu'une manière dont ils peuvent se comporter, en fait. Donc je laisse faire et j'essaye jamais de tordre les personnages pour qu'ils rentrent dans quelque chose. Si j'avais prévu quelque chose qui colle plus avec ce que le personnage est devenu, je le change. Toujours. C'est moi la priorité, la manière dont j'écris, c'est toujours les personnages. C'est pas forcément le plot.
Est-ce que vous sentez ce moment, au moment de l'écriture, du dessin, de leur représentation, ce moment où ils s'affirment, ils vous contraignent ? On le ressent, ça ?
Pour moi, ouais, c'est vraiment un petit clic. Ça peut venir tard suivant les personnages. En fait, en l'occurrence, là, comme je disais, Vlada, je ne l'avais pas très bien cerné au début. Et en fait, j'ai refait à peu près les 60-70 premières pages du récit, parce que je trouvais qu'elle n'était pas bien caractérisée, elle n'était pas bien introduite, elle n'était pas justement ce qu'elle est devenue plus tard, et moi clairement je préfère refaire pour que ce soit bien cohérent et réavoir le perso. Et moi je le ressens dans le sens où il y a vraiment un déclic à un moment, et ça devient, le personnage est devenu qui il était, et c'est un peu pareil pour les scénarios de manière générale. Quand je suis entre deux projets, je vais réfléchir un petit peu, poser des idées de concept et voir ce qui marche. En fait, à un moment, il y a un scénar qui va cliquer et qui sera devant les autres, parce que ça y est, son concept qui marche.
Anne-Masse, je vous propose une pause musicale. On se retrouve donc dans quelques minutes après le deuxième morceau de l'artiste, des artistes que vous avez choisi. À tout de suite.
À tout de suite.
Vous êtes sur Radio Escapade. Nous sommes avec Anne-Masse à l'occasion de l'apparition de son roman graphique Apocalypse Sauvage. Anne-Masse, j'aimerais qu'on parle dessin maintenant. Et puis, alors, à quel moment apparaît le dessin ? Est-ce que vous écrivez la totalité du récit ? Est-ce que c'est une écriture qui est déjà très visuelle, avec un storyboard, du dessin ? Comment fonctionnez-vous ?
Moi, je me considère comme scénariste plus que dessinateur, donc c'est vrai que le dessin intervient pas beaucoup en début de projet, et je pense que c'est une faute de ma part complètement. En termes de quand est-ce que le dessin arrive, c'est vraiment, je vais avoir une petite idée de scénar, je vais réfléchir à tout ça pendant un certain temps. Je vais, au bout d'un moment, je vais enfin écrire un synopsis, j'essaye d'attendre le plus longtemps possible pour que ce soit le plus propre possible. Et de là, il va y avoir une, deux, trois versions, hein, suivant à quel point je me sens à l'aise avec l'histoire. Donc j'essaie de ne plus faire ça, mais j'ai tendance à attaquer le dessin. Donc après que le scénario soit, pour valider, un peu directement, je fais à peu près 3 chara-design et après je suis partie, ce qui m'a mis un petit peu en défaut sur Asphalto notamment, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, les pages que j'ai refaites, si j'avais dessiné avant, je pense que ça serait pas passé comme ça. Et pour le projet sur lequel je suis à l'heure actuelle, j'ai fait beaucoup plus de recherches graphiques et bizarrement ça rend les choses beaucoup plus faciles.
C'est parce que le terme de faute est quand même lourd de sens, Annemasse. Parce qu'on les sent, vos personnages, ils sont là, il y a une gestuelle, il y a une précision dans les attitudes. J'ai du mal à imaginer où est la faute.
La faute est que je redessinais 70 pages pour rien. Enfin, pour rien, non, c'est très bien que je les ai redessinées, justement. Je l'ai fait avec une raison, mais c'est plus une histoire de si j'entame les recherches graphiques bien en amont et que c'est pas juste 3 dessins et que je le fais bien, c'est aussi que j'ai plus d'énergie derrière pour m'attarder sur l'acting, sur les décors, sur le traitement graphique. Et voilà, c'est quelque chose que je viens d'apprendre, donc tant mieux pour moi. Mais je ne regrette rien, tout va bien.
Alors, vous avez choisi de donner des regards blancs à vos deux personnages, à Vlada et Pouik. Pourquoi ?
C'est marrant, il y a peu de gens que ça a fait tiquer, mais il y en a quelques-uns, et quand ils ont tiqué là-dessus, ils sont un peu... ils sont très insistants, mais pour moi, c'était juste des yeux clairs. Et... C'était aussi par flemme, parce que s'ils étaient en noir, il aurait fallu que je me tape le remplissage à chaque fois. C'est avec moi, c'est souvent des réponses comme ça sur les dessins. C'est rarement des choses très, très grandes de sens.
Ah, parce que je me permets de poser la question, parce qu'on a le personnage, par exemple, de Pilou, c'est ça, où on a donc ces images où on a bien des personnages avec des yeux noirs. Donc voilà, c'était un point remarquable, on va dire. Comment êtes-vous sur votre table à dessin, Annemasse? On sent que votre dessin est très posé, mais vous lui donnez beaucoup de sensibilité. Ce n'est pas une ligne très rectiligne, mais au contraire, il y a vraiment des aspérités constantes qui fait que le trait est vivant et expressif. Comment ça se passe sur votre table à dessin ?
Déjà, sur la table à dessin, je suis très mal installée, j'ai très mal au dos. Mais le dessin... Alors, à savoir que moi, je reviens au dessin traditionnel après une dizaine d'années de dessin numérique. Et autant ça faisait très peur au début, parce qu'il y a beaucoup moins de possibilités de se rattraper si on a fait des bêtises. Mais j'aime dessiner en tradi à peu près 1 milliard de fois plus.
Ah. Alors, Issa va la rappeler. Donc, je vais donner quelques infos supplémentaires le temps qu'on retrouve la communication avec Annemasse. Alors, c'est un livre qui est au format roman graphique, c'est-à-dire 15 cm par 21. Donc, c'est un plus petit format. Et la pagination est importante, il fait 240 pages, ce qui permet vraiment donc à l'autrice, à l'auteur de bien développer son univers. Et c'est aussi, par rapport à la lecture, une autre approche du grand format. On est plus dans le rapport au livre qu'on a avec les mangas ou avec les comics, un peu plus avec les comics parce qu'il y a beaucoup de mangas de beaucoup plus petits formats. Et donc, ce roman graphique va trouver toute sa place, toute son ampleur avec ce format-là. Alors, c'est un livre qui est au lavis, en niveau de gris, et Alors, il faut vraiment l'imaginer. On a un dessin au trait avec ce travail de gris qui vient mettre en modelé, en nuance, le dessin au trait. On a la caractéristique des cheveux des deux personnages qui vont être dans des tons un peu plus affirmés. Mais le travail du lavis donne beaucoup de matière, beaucoup de relief. Ce n'est pas simplement un aplat. Et Vlada a des cheveux qui vont être extrêmement animés dans leur mise en couleur. Alors, je pense qu'Issa y est arrivé. Donc, on va poursuivre notre discussion avec Annemasse. Voilà, donc Annemasse, vous m'entendez ?
Oui, je suis retour.
Parfait. Alors, on en était sur la partie dessin et j'étais en train d'évoquer ce travail à la fois de trait, et là, pendant qu'on cherchait à vous rejoindre, j'évoquais votre mise en couleur au lavis, avec ces couleurs très animées, dues à l'eau, à cette présence d'eau importante. Alors, donnez-nous un peu votre projet, vos intentions avec à la fois la mise en couleur et votre rapport au trait.
Alors à la base, donc comme je disais tout à l'heure, à la base j'étais en numérique et en fait comme j'avais du mal à vendre le projet et que je connais quelqu'un au label 119 qui a donc édité le projet qui m'avait proposé de le proposer aux autres pour éventuellement y signer, qui m'avait dit peut-être que ce serait bien que tu retournes au tradit. Comme tu faisais avant, parce que ça collerait mieux avec la ligne éditoriale et aussi le goût de ses collègues. Et c'est vrai qu'avant, le numérique, j'avais ce trait très nerveux et j'aimais beaucoup faire du lavis et du noir et blanc. Et avec encore une fois cette influence, pour le coup, plus comique scindée sur des mises en valeur un petit peu crades, avec beaucoup de avec de la tâche, avec des coulures, avec du spray un petit peu, et le fait de m'être remis là-dessus, ça a été un petit peu la révélation de oh mon Dieu, pourquoi j'avais arrêté de faire ça, parce que utiliser plein de choses différentes, moi ça m'amuse beaucoup. Il y a le dans la salle, il y a le lavis, mais il y a aussi un peu de bombe. Il y a de la peinture acrylique, il y a du marqueur, il y a plein de choses. Donc c'est moi si on me laisse être un peu foufou et faire n'importe quoi sur une page, je suis très contente.
Alors il y a l'ambiance qui est donnée par cette grisaille qui apparaît constamment avec une sorte de poudre qui est projetée. C'est assez charbonneux, mais là aussi, ça a l'air d'être éjouissant à faire.
Pardon ?
Oui, je disais, il y a l'ambiance qui est donnée par la grisaille, avec ces projections, où on a donc des tas de petites taches qui sont très fréquemment dans l'image. Pour les extérieurs, c'est saisissant. Ça doit être très réjouissant à faire, ce petit...
Oui, c'est vraiment, on devient un peu le savon fou de la peinture, parce qu'en plus les petites taches, les projections comme ça, c'est avec la brosse à dents. Donc ça, c'est vraiment le moment le plus fun où j'attends toujours que la page soit bien finie, et puis après je trempe la brosse à dents et je frush sur toute la page.
Et la couleur jaune ?
Et la couleur jaune, bah, c'était pour pas être en noir.
C'est jaune, ça aurait pu être rouge, ça aurait pu être... Mais non, là, vous avez choisi un jaune lumineux, mais qui a aussi des accents un peu tragiques.
Oui, alors le jaune, j'ai choisi surtout pour des raisons pratiques, dans le sens où je trouve que c'est une des couleurs les plus neutres. Surtout ce jaune qui tire un petit peu vers le vert. Là où un rouge, tout de suite, on est sur quelque chose un peu colère, un petit peu anxiogène. Le bleu, ça fait très ambiance de nuit, ou si c'est un bleu ciel, très ambiance d'été. Et le jaune, c'était la couleur la plus pratique sur ces choses-là. Et le fait d'ajouter une couleur, c'était aussi parce que le marché français est un peu frileux, pardon, du noir et blanc en général. Donc c'était pour avoir un petit twist, parce qu'on n'est pas complètement noir et blanc.
Alors et c'est pas du tout un récit anxiogène où on va tous se flinguer à la fin du livre. Donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il y a vraiment l'entraide, il y a vraiment la relation qui se construit. Et ça, c'est essentiel.
Oui, bah c'est le fait qu'il y ait d'avoir quelque chose de plus lumineux, de plus collectif, on va dire. J'aime à croire et j'espère que ce qu'on présente comme récit dans la culture, ça permet un petit peu de, sinon changer les mentalités, au moins donner un référentiel différent aux gens. Et encore une fois, par rapport à si le post-apo arriverait dans la vérité, je me dis, si on fait plein de post-apo où les gens ils sont gentils entre eux, peut-être que quand ça arrive, tout le monde y sera gentil entre eux. Hein.
Merci pour cette conclusion, Anne-Masse. Je vais rappeler les caractéristiques de votre livre, Apocalypse sauvage. Donc, c'est au format manga 15-21, format comics. Les 240 pages de votre livre sont au prix de 14 euros. Il a été imprimé en France. Très bonne continuation et merci d'avoir répondu à mes questions.
Merci beaucoup de m'avoir reçu.
Merci. À bientôt. We were shooting at a mountain of dirt. Well, nothing was broken, nothing was hurt. But I probably really should have been at work. But if my free time's gone, would you promise me this, that you will pay? Promise me this, my friend. Please, bury me with it. I just don't need none of that Mad Max bullshit. Well, the suit got tight and it split at the seams, but I kept it out of habit. I kept it real clean. But if it's getting faded, if it's running out of thread, could you do this for me, my friend? And please just please. Voilà, c'était Modeste Mouse, qui est un choix de Anne-Masse. C'est les trois morceaux de cette émission ont donc été composés par ce groupe. Ça sonne très bien, je ne connaissais pas, c'est une très belle découverte. Je voudrais terminer cette émission, alors c'est toujours à chaque fois le choix de comme un indispensable, un livre que je trouve marquant, qui dans sa forme, dans son fond, bien évidemment, la forme, c'est ce qui permet au fond d'affleurer, eh bien, son révélateur et son important. Il s'agit de Français, langue étrangère, de Salch. Alors, Salch est un auteur avec un dessin vachard, et j'avais présenté il y a quelque temps comment éduquer ses enfants. Donc son dessin vachard, c'est vraiment une force. Il fait aussi du dessin politique. Alors c'est un auteur, scénariste, dessinateur, donc qui explore aussi d'autres espaces narratifs, mais avec ce même dessin. On a eu par exemple son adaptation littéraire des Misérables, que j'avais également présenté, qui est un morceau d'anthologie, je pense que Victor Hugo en aurait ri aux éclats. Et puis il y a Résidence Autonomie, qui, avec ce même genre de trait, va évoquer le quotidien de personnes dans une résidence pour les personnes âgées. Donc déjà, le thème est assez particulier. Français, langue étrangère, ça veut bien dire ce que ça veut dire, et donc on va rencontrer Marie, le récit. Marie est professeure de FLE. Elle enseigne la langue française à des publics adultes non francophones dans un but culturel ou professionnel. De l'Afghanistan à l'Ukraine et de la Syrie à l'Éthiopie, ses élèves sont originaires de pays en guerre ou en proie à des régimes dictatoriaux. Ils ont tous été confrontés à l'exil, aux violences, aux massacres. Au-delà de sa mission d'enseignement, Marie joue aussi un rôle d'assistante sociale en les aidant à remplir des papiers administratifs ou à trouver un médecin, car leur santé est précaire en raison de leur parcours marqué par les privations. Elle tente aussi de les sensibiliser aux différences de mode de vie entre la France et leur pays d'origine. Une tâche difficile en raison du fossé culturel qui la sépare de ses apprenants. Alors, Salch, qui débarque avec un thème comme ça et son dessin à l'énergie, qui est plutôt donc incisif, Vachard, j'aime bien ce mot, eh bien, va mettre Marie et on va la suivre dans ses cours avec les apprenants. On est dans la classe. C'est une occasion aussi pour que les récits de vie de ces différents apprenants, des parcours, donc selon leur origine, soient ainsi expliqués dans des flashbacks avec la même vigueur graphique. On a très vite cette précision de ce qu'est vraiment un cours de français langue étrangère. Quel est le rôle de ces cours? Est-ce que c'est simplement pour dire, ben voilà, on va apprendre le français à des personnes qui viennent se réfugier en France? Alors, c'est beaucoup plus que cela, et c'est toute l'importance de ce récit, c'est que Marie, celle qui est la professeure, qui enseigne, elle va mettre les apprenants dans des situations où il faut qu'ils se confrontent aussi à ces différences culturelles. Elle ne va pas du tout les évacuer, même si à des moments elle aimerait aller un peu plus loin, il y a quelques retenues. Mais il y a donc des moments de colère. Elle va évoquer la journée de la femme. Il va y avoir, donc, par rapport à l'homosexualité aussi, à l'excision, à l'IVG, donc des thèmes qui sont traités, des questions de société qui sont traitées, avec effectivement cette difficulté de l'exprimer dans la langue, mais il y a suffisamment de compréhension pour que ces thèmes soient posés efficacement et soient une réalité. Et donc, le cours de français langue étrangère prend tout de suite une importance plutôt essentielle parce que il faut faire avec ces différences et il faut aussi qu'il y ait un chemin, un mouvement qui se dessine pour que on puisse bien faire avec les différences des uns et des autres. Donc, le trait Vachard de Salch, il est là au service aussi d'une question de société et d'une situation qui apparaît avec un peu la même démarche que son livre précédent, Résidence Autonomie. C'est de traiter d'une situation avec précision, avec vraiment une humanité, une connaissance qui fasse que le lecteur soit dans la salle de classe avec tout le monde, avec les autres. Et c'est là que le trait et l'écriture dessinée de Salch va avoir toute son importance, c'est qu'il lui donne une certaine rigueur à cette écriture. Le découpage de Salch est précis, simple. Il y a vraiment cette conscience de l'importance de la mise en scène, de cet auteur de cases qui va donner une cohérence à l'ensemble du récit. Et donc, on est tout au long de cette histoire. Alors, il y a bien sûr quelques variations, mais on retrouve constamment ce gaufrier de six cases avec donc cette régularité qui donne encore plus de force et d'ampleur au récit. Et puis après, il y a le traitement graphique, donc ce trait incisif qui n'est complaisant avec personne. Il n'y a pas Marie la professeure qui serait très bien dessinée, soit parce que c'est une femme, soit parce que elle est du côté de ceux qui apprennent, qui font apprendre, et puis les autres, les apprenants, qui seraient caricaturés. Tout le monde est traité à la même enseigne. Marie se présente avec sa coiffure rouge, ses yeux exorbités, et puis un grand nez, quelques dents éparses dans la bouche. C'est une caricature. Et les apprenants, c'est pareil. Il y a dans cette façon de caricaturer, c'est pas du tout pour créer de la dérision, pour donner une sorte d'ironie facile pour que on prenne pas trop au sérieux cette histoire. Non, il y a une façon aussi de dire ce n'est pas larmoyant, ce n'est pas une façon de dire oui, ils sont tous vachement sympas, donc il faut quand même être très compréhensif. Il y a l'idée d'être dans une réalité, dans la réalité des situations, et c'est ce que réussit à faire Salch, à la fois par son dessin, sa mise en scène, son récit, et ce trait Vachard va vraiment être là pour dire on a tous notre part. C'est d'une grande finesse, c'est une qualité d'écriture, de rythme. Il y a par exemple l'utilisation d'un jaune pour les récitatifs, de ce rouge pour la coiffure de Marie, et puis ce trait, ces regards, ces grands yeux qui vont être omniprésents dans la page, des trouvailles graphiques, un fort moment, une grande réussite. Salch est un auteur que je vais continuer à suivre et dont je vais continuer à vous parler. Français, langue étrangère de Salch, c'est publié par les éditions d'Argo. Les 136 pages de ce livre sont au prix de 24 € et le livre a été imprimé, je vais vous le dire tout de suite, si je trouve, il a été imprimé en France. La semaine prochaine, nous serons avec Frédéric Pajac et nous parlerons bien évidemment du 4e festival du dessin d'Arles. Frédéric Pajac en est le directeur artistique. Merci Issa pour cette technique et très bonne semaine à tous sur les ondes de Radio Escapade. Écriture dessinée.